7h-9h, Matin Première.
Il est 7h48, la Belgique retrouvera une vie quasi normale dès ce lundi, mais est-ce une délivrance pour tous ? Thomas Gadifseux, on en parle avec l'invité ce matin, c'est Bruno Colman.
Oui, CEO de la Banque de Groove, économiste, conseiller aussi de certains gouvernements et membre de l'Académie royale. La dernière phase du déconfinement a donc été validée hier, et déjà les autorités se penchent sur le plan fédéral de protection sociale et économique. Et oui, ce sera la suite. Si la quasi-totalité des activités reprennent, sont-elles pour autant sauvées de cette crise ? Le filet social sera-t-il suffisant? L'État a-t-il les reins assez solides pour affronter l'après-Covid et surtout les conséquences économiques? Il faut plus d'État, c'est ce que dit Bruno Colman dans son nouveau livre.
Bonjour Bruno Colman.
Bonjour.
Vous avez suivi hier, comme de nombreux Belges, le Conseil national de sécurité qui annonçait de bonnes nouvelles, on peut les présenter comme ça. La Belgique sort du confinement. Est-ce pour autant un soulagement pour tout le monde?
Mais ce ne sera pas un soulagement qui sera partagé, puisque certains secteurs resteront affectés. Et en termes de création de richesse, on parle quand même d'un choc majeur, puisqu'on parle d'une chute du PIB, c'est-à-dire de la richesse créée chaque année, de l'ordre de 10%. Donc on parle de 50 à 60 milliards d'euros qu'on doit majorer de la perte de ce qui est non comptabilisé, c'est-à-dire l'économie grise ou l'économie noire. Donc c'est un choc qui peut-être s'élèvera globalement à 80 milliards d'euros. Et donc c'est de la richesse qui n'est pas créée. C'est de la richesse qui est perdue, qui va peut-être en partie se rattraper l'année prochaine, mais c'est un choc d'appauvrissement. C'est comme si chacun gagnait moins. C'est comme si la Belgique dans sa globalité gagnait moins.
Est-ce que ça sera ponctuel, justement, ça sera l'effet Covid, et puis ça va reprendre, ou est-ce que ça va devenir structurel, et du coup c'est notre système économique qui va devoir changer et s'adapter?
Mais je crois qu'il y aura un effet structurel, parce qu'il y a une perte de confiance dans l'économie, il va y avoir une tentation certainement d'épargne, les gens voulant se protéger contre le futur, mais ce qui va structurellement changer, c'est le partage d'État, je crois, entre l'État et les marchés, parce que cette crise a révélé l'importance des biens publics, comme la santé, comme l'éducation, a révélé aussi la nécessité d'avoir un filet de sécurité sociale, un État social, un État providence. Et donc, il va y avoir, je pense, dans beaucoup de pays, une réflexion quant au partage des tâches entre la spontanéité du libéralisme et de l'économie de marché, et puis d'autre part, l'État.
Ça veut dire qu'on va, l'État va devoir aller récupérer ce qu'il avait lâché au marché. L'exemple le plus flagrant, c'est les masques, qui a révélé justement le manque d'emprise qu'avait cet État sur des secteurs stratégiques comme la santé.
Oui, moi, il y a deux choses qui m'ont surpris. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Hein. C'est d'abord la complexité de la mondialisation. Je n'avais jamais imaginé qu'il y avait autant d'interactions en termes de commerce. Et puis d'autre part, ce qui m'a frappé aussi, c'est la superficialité de l'économie. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un petit choc arrive pour que tout s'arrête. Et donc, je disais, c'est la poule et l'œuf parce que c'est à la fois un choc d'offre et de demande. Et on est rentré depuis 40 ans dans un système, dans une idéologie qui est partie de l'idée que le marché, par sa main invisible, savait mieux que l'État comment gérer les biens, même les biens publics. Mais en fait, on ne gère pas un État comme une entreprise. Une entreprise cherche le monopole éphémère, temporaire, pour imposer ses prix. Un État doit gérer des valeurs humanistes, des déséquilibres sociaux, donner sa chance à tout le monde. Et donc, je pense qu'on va repenser ce système dans un équilibre plus sain, au bénéfice, d'ailleurs, je crois, du libéralisme, mais avec la reconnaissance du rôle que peut apporter un État en matière d'épanouissement des citoyens.
Alors, vous avez évoqué le déficit budgétaire, 10% hein, du PIB, en tout cas l'officiel, comme vous dites, parce qu'il y a aussi tout ce qui est l'économie noire, 15 milliards de dépenses, 25 milliards de recettes en moins. Qui va pouvoir trouver l'argent pour compenser ce choc Covid?
Mais c'est assez simple. C'est assez simple. En fait, là, il faut aborder cette crise avec des yeux un peu différents et pas des yeux d'idéologue. Donc certains disent tout de suite, on va devoir taxer. Mais non, on ne sort pas d'une crise par la taxation. La taxation, ça étouffe une reprise.
Il faut trouver l'argent.
Il faut trouver l'argent. Mais facilement par l'endettement. Donc toutes les dépenses sociales que l'État va mettre en œuvre et les moindres recettes fiscales vont créer ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Donc l'État va mettre ses comptes en rouge. Donc l'argent doit venir de quelque part. Ça vient de l'endettement public. Donc l'endettement public, c'est l'emprunt par l'État de monnaie, et cet argent va en grande partie être donné par la Banque Centrale Européenne. Donc aujourd'hui, il va y avoir en Europe un alignement de la stimulation budgétaire par les États et de la création monétaire par la Banque Centrale. Et donc c'est la Banque Centrale qui va imprimer de la monnaie pour financer ces emprunts.
C'est en même temps le créancier qui donne l'argent, ce créancier, l'Europe, qui avait pourtant fixé des cadres budgétaires très stricts jusqu'à présent, les fameux 3% qu'on ne pouvait pas dépasser. Là, on parle de 10%. Tout d'un coup, l'Europe va fermer les yeux.
Immanquablement, parce que d'abord ces critères ont été fixés il y a quasiment 30 ans et n'ont plus la moindre pertinence, même arithmétique. Et puis d'autre part, parce que ces critères ne tiennent qu'en économie normale. Aujourd'hui, on a un choc qui est structurel, qui est le plus important qu'on ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale.
Donc tout le monde prend conscience de la situation. Les économistes, comme vous venez de faire, regard change, mais aussi l'Europe.
Ben voilà, l'Europe, et puis on va tous redevenir un peu keynésiens, c'est-à-dire qu'on va comprendre le rôle de stimulation de l'État. Et en fait, cette création monétaire gigantesque, qui va sans doute être amplifiée aujourd'hui par les décisions de la Banque Centrale Européenne, c'est pas grave, parce que la Banque Centrale Européenne, elle tient la confiance dans la monnaie. Quand elle émet de la monnaie, le seul risque, en quantité, on va dire, excessive, le seul risque, c'est de l'inflation, c'est-à-dire qu'il faut plus d'unités monétaires, c'est l'augmentation des prix, mais on n'est pas du tout dans les conditions d'inflation. Il y a un peu d'inflation alimentaire, mais en vérité, on est plus proche de la récession. On a quand même 40% de la population active qui était affectée par cette crise, et donc il n'y a pas naturellement une propension à l'augmentation des prix. En plus, les taux d'intérêt sont nuls, voire négatifs. Donc quand l'État emprunte maintenant pour relancer l'économie, eh bien il emprunte à un taux d'intérêt qui est tel qu'il devra rembourser moins que ce qu'il a emprunté.
Retour sur la gestion, la belge, de cette crise. Vous dites, on va à un moment donné être obligé de délier la bourse, hein, de laisser filer ce déficit. Mais ça veut dire quoi en termes de gestion? On va pouvoir donner des cadeaux, entre guillemets, soutenir socio-économiquement l'ensemble des secteurs? C'est faisable ça, ou on va jouer au Père Noël avant l'heure?
Ben, on va devoir jouer au Père Noël, parce que en réalité, certains disent évidemment, on doit laisser tomber ceux qui n'ont pas la force, les mauvaises entreprises, c'est ce qu'on appelle le darwinisme social.
Il va y avoir des choix, du coup, politiques clairs, on doit sauver prioritairement certains secteurs de l'économie?
Moi, je ne crois pas qu'il faut faire des choix économiques définitifs. Pourquoi? Parce que, comme ce choc est un choc qui touche toute l'économie, on ne peut pas dire que c'est révélateur des bonnes ou des mauvaises entreprises. Il n'y a pas de raison. Et donc, on va devoir donner du pouvoir d'achat à beaucoup de personnes. C'est d'ailleurs mis en œuvre par des revenus de remplacement et du chômage technique ou partiel. Peut-être qu'un jour, on va devoir en arriver à ce que des personnes, sur base d'un aveu, demandent une somme à l'État, qui pourra peut-être être fiscalisée dans le futur pour voir si les gens la méritaient ou pas. Mais l'important, l'immédiateté, c'est donner du pouvoir d'achat aux personnes pour surmonter cette transition de crise.
C'est cette approche keynésienne que vous dites, on relance par la consommation, d'où l'idée d'avoir par exemple des chèques Horeca, 250 oui. euros donnés par l'employeur pour aller directement injecter ça dans l'économie réelle.
Absolument, c'est une idée que j'avais dès le début de la crise d'ailleurs, de donner des titres services, des titres repas à des personnes qui en ont besoin avec une affectation qui est alimentaire, donc qui est assez immédiate. Oui, ce ne sera pas par la stimulation de l'offre, mais par la demande qu'on va sauver cette économie. C'est-à-dire qu'il faut que la traction vienne de la part des entreprises et des ménages. On peut bien sûr pour les entreprises les aider par des impôts négatifs, mais c'est surtout au niveau de la population. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il va y avoir peut-être l'impossibilité pour certaines personnes de payer leurs impôts. Je ne sais pas si tout le monde sera capable de payer son précompte immobilier pour ceux qui sont propriétaires fin août, début septembre. Et donc il va falloir que l'État change la logique fiscale, non pas en imposant plus, mais en donnant des crédits d'impôts, des impôts négatifs pour les personnes qui sont en situation de précarité.
Ça veut dire qu'il y aurait un sentiment de désobéissance fiscale, entre guillemets. Certains vont dire, ah, attendez, vu la situation, moi je ne sais pas honorer ça, ce précompte mobilier ou mes impôts.
Et certains vont certainement d'abord être confrontés à une réalité financière qui sera incontestable et pourraient invoquer le fait que par le cas de la force majeure, par le fait du prince, ils ne sont pas en situation de payer leurs impôts. Et donc c'est pour ça que je pense que la priorité, l'absolue priorité, c'est aider les personnes qui sont dans le désarroi financier. Et si cette demande est satisfaite, si cette personne arrive à surmonter ces quelques trimestres de crise, on relancera une économie qui sera plus tranquille, qui ne sera pas en situation de tension extrême, en situation d'intranquillité.
Et vous en revenez au rôle de l'État pour ce plan justement de soutien social et économique. On est en Belgique, dans une situation complexe, avec un gouvernement qui a une durée limitée. Est-ce que l'État belge, avec toute sa lasagne, est capable d'affronter ça, une gestion aussi importante économiquement?
Mais la Belgique n'est plus autonome dans cette crise. Aujourd'hui, on parle d'une crise mondiale, européenne, et la gestion n'aurait pas pu rester belge. D'ailleurs, si l'État belge peut emprunter...
Tout le monde y va de son plan de relance, là, pour l'instant.
Oui,
est-ce que la Belgique a les reins assez solides?
Je crois. Parce que d'abord, c'est un pays qui a une bonne qualité de rating, de crédibilité financière, et parce que la Belgique est dans une infrastructure monétaire, financière, de Banque Centrale Européenne, d'Europe, dont elle va bénéficier. Donc je pense que son autonomie sanitaire est importante, mais globalement, sous l'angle financier, ce ne sera pas un problème du tout.
Et quand on vous entend dire, à un moment donné, il faut changer son regard en termes de rôle de l'État, est-ce qu'en Belgique aussi, dans les gouvernements, il y a ce changement de paradigme? Parce que vous-même, vous êtes un économiste libéral qui avait soutenu des gouvernements libéraux. C'est une forme de changement aussi de votre vision de l'économie. Est-ce que cette prise de conscience, elle est aussi au niveau politique, selon vous?
Certainement, et on peut être un libéral et aimer l'État. Hein. Moi, j'aime bien l'État-providence, j'aime bien l'État social.
On parle souvent de la différence nord-sud, oui, quand même, sur ce regard-là.
C'est vrai, mais moi je suis un produit de l'État-providence, donc j'ai beaucoup de respect pour l'État social, mais je pense que la réflexion va porter, pas immédiatement, mais dans les prochains trimestres ou années, sur la répartition de la sphère de l'État et des marchés. Et en fait, toute l'erreur, je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir considéré que l'État pouvait être relégué en dessous des marchés. Non, il faut un dialogue à part égale. Le marché et l'État, c'est la verre et le revers de la même pièce.
Mais cette erreur, c'est une erreur que vous avez fait aussi, vous reconnaissez. En tant qu'économiste, il y a quelques années, avec des discours qui allaient dans ce sens-là?
Bien sûr, parce que je fais partie des économistes qui ont été éduqués dans les années 80, avec l'irradiation du modèle modèle anglo-saxon. J'ai moi-même étudié aux États-Unis dans les années 80. Et en fait, il était presque grossier de parler de Keynes, alors qu'aujourd'hui, Keynes est revitalisé par...
Mais pourquoi vous y avez cru à ce moment-là et plus aujourd'hui ?
Parce que je crois que c'était un courant de pensée, une idéologie qui était bonne au début. Ça a permis d'oxygéner la pensée, de générer de la croissance, de l'innovation. Et c'est toujours le cas maintenant. Mais de manière, par micro-oscillation, par micro-changement, on ne s'est pas rendu compte qu'on avait relégué l'État à un rôle de notaire, d'arbitre, sans lui donner une capacité, sans reconnaître sa capacité de stimulation économique et surtout sa réalité d'aide à l'économie. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper non plus, c'est incontestable. Si l'économie privée maintenant peut surmonter cette crise, c'est grâce aux États. C'est les États qui donnent du pouvoir d'achat.
Et comme en 2008,
bien plus qu'en
2008, à cette crise justement qui a préparé les États et l'Europe.
Bien sûr,
arrive maintenant.
Mais bien plus qu'en 2008. 2008, c'était une crise bancaire qui s'est traduite en choc récessionnaire. Aujourd'hui, c'est une récession qui est reflétée dans la sphère financière. Mais c'est grâce aux États qu'on a de l'endettement public, une banque centrale européenne. Donc aujourd'hui, on doit reconnaître cette interaction positive entre les deux.
Bruno Coleman, une dernière question. Certains ont fait le parallélisme avec la guerre de cette crise Covid, tant la vague d'hospitalisation a été violente. Quel est l'état du champ de bataille, entre guillemets, sociale et économique, selon vous?
En 30 secondes.
Vous avez dit qu'on avait sous-estimé cette crise.
Je crois qu'on n'est pas en 29, on n'est pas au début d'une guerre, on est dans les années 30. C'est-à-dire que dans les années 30, on a fait l'erreur de donner une réponse budgétaire de contraction. On a mis l'économie par terre. En fait, on doit maintenant l'oxygéner par de la dette, par de la création monétaire. Donc on doit faire l'inverse des années 30, et je crois qu'on va suivre cette voie.
Merci beaucoup Bruno Coleman. Votre nouveau livre s'intitule « Hypercapitalisme, le coup d'éclat permanent » paru à la Renaissance du livre. Il sort lundi. Réflexion, on l'a entendu, sur le rôle que doivent jouer les États face au marché. Dans quelques instants, c'est le journal de 8h et on rappelle le chiffre que vous avez donné en début d'interview. 10% du PIB plus l'économie noire, un choc de 80 milliards d'euros. Un peu comme si tous les Belges allaient gagner un peu moins d'argent pendant un petit temps. Merci à vous Bruno Coleman, merci Thomas Guédisseux. Les infos de 8h, c'est tout de suite. Merci.